Dorian Malovic, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fait, on se rend compte dans votre livre, de nombreux voyages en Corée du Nord. Quelle latitude Pyongyang vous laisse pour vous informer? Parce que j'imagine que vous ne pouvez pas parler dictature, camp de travail ou droits de l'homme.
Finalement, on n'était pas avec des guides touristiques classiques, on était avec des gens de haut niveau qui nous connaissent très bien. Ils ont ce qu'il faut à ce niveau de l'État pour savoir ce qu'on a écrit, ce qu'on dit. Et finalement, on a pu discuter de beaucoup de choses. On est passé avec mon guide pas loin d'un camp de travail Yodok le plus grand. Et je lui dis, mais alors là, on peut pas s'arrêter. Il me dit, ah non, pas cette fois-ci. Mais si vous voulez, la prochaine fois, je vous ferai visiter. Alors, j'attends peut-être la prochaine fois, mais c'est vrai que il y a tout un humour un petit peu entendu entre les deux. Il sait qui je suis, je sais qui il est, on sait que chacun doit faire son travail, mais on peut quand même discuter. Il faut les respecter, les prendre d'égal à égal. C'est déjà la base. C'est ce qui n'a pas été fait par de nombreux pays jusqu'à présent. Les États-Unis en premier, qui ont toujours considéré la Corée du Nord comme quantité négligeable, comme pays pauvre, qui allait probablement partir dans les poubelles de l'histoire en 91 à la chute de l'URSS. Et manque de chance, ce petit pays improbable est devenu une puissance nucléaire.
De la part des Nord-Coréens que vous avez rencontrés, il y a une véritable détestation des Américains. Pas des Sud-Coréens, mais des Américains.
L'ennemi numéro un, après le colonisateur japonais, c'est quand même les États-Unis qui ont vitrifié le pays entre 50 et 53. Ce traumatisme et cette plaie de la division du pays, elle demeure ancrée et elle est la justification de ce régime pour s'armer et pour devenir puissance nucléaire. Donc du berceau à la mort, l'enseignement de tous, c'est l'ennemi américain est là.
Malgré les sanctions, Pyongyang commerce avec beaucoup d'autres pays, entre autres des pays asiatiques et africains. Qu'est-ce qui est vendu et comment?
Ce pays n'était pas dans le listing de ceux qui pouvaient obtenir la bombe, mais ils ont réussi en 40 ans à avancer masqué. Du point de vue financier, il y a une nébuleuse asiatique totalement méconnue du grand public, une nébuleuse africaine, une nébuleuse au Proche-Orient. Finalement, la Corée du Nord, encore une fois, sous-estimée, produit des armes légères, de l'armement plus lourd, des missiles, de la technologie et des coopérations militaires, et elle le vend, et elle a plus d'une centaine de pays avec qui elle a des relations diplomatiques. Évidemment, ça n'empêche pas qu'elle soit plus fermée que d'autres, mais les diplomates nord-coréens nous disent, en Afrique, même si ils s'alignent officiellement sur les États-Unis, en privé avec nous, on a toujours le point commun d'avoir été colonisés, et ce sont aussi des soutiens. Et vous avez énormément d'échanges, et on arrive aussi à autre chose aujourd'hui depuis 10 ans, c'est le numérique, c'est l'informatique, le high-tech est maîtrisé par les ingénieurs nord-coréens. Ils ont envoyé des étudiants en Russie, en Chine et en Inde pour se former et ils ont aujourd'hui une armée de hackers qui sont parfaitement capables de faire de leur travail.
Vous expliquez que pour les Nord-Coréens, le monde extérieur n'est plus inconnu parce que la plupart des familles nord-coréennes ont un membre ou un proche qui a fait défection, qui est parti, avec qui parfois il est possible de communiquer.
Une des conséquences positive, je dirais, de cette grande famine en 95 qui a fait 3 millions de morts en Corée du Nord, c'est que vous avez eu un flux de Nord-Coréens qui est parti vers la Chine déjà. De nombreux Nord-Coréens ont découvert le monde. En même temps, vous avez des centaines de milliers d'ouvriers nord-coréens qui sont en Russie, en Chine, en Asie du Sud-Est ou même en Afrique. Et finalement, la connaissance de l'extérieur s'est un peu desserrée. Même les diplomates nous disent que Kim Jong-un a été en Suisse pendant quelques années et il va adapter l'économie et la situation politique à ce monde qui a changé.
Alors ça reste une dictature extrêmement dure. Vous pensez qu'il y a une possibilité d'ouverture justement?
On voit qu'il y a des réformes, on voit qu'il y a des hommes d'affaires, on voit qu'il y a des business privés dans le cadre de l'État évidemment. Il y a une inspiration du modèle chinois avec une économie qui s'ouvre, sous contrôle mais quand même qui se libéralise, avec un régime politique qui lui ne se libéralise pas bien sûr parce que la survie du régime à l'intérieur doit être garantie, à l'extérieur la puissance nucléaire lui garantit une sécurité. Donc aujourd'hui, la logique voudrait que l'issue du sommet avec Trump en fin mai début juin nous laisse penser que la priorité économique domine et qu'il est prêt à faire quand même un certain nombre de concessions. Maintenant, il faut savoir ce que Trump sera prêt à faire comme concession. Donc ça, c'est quand même assez excitant de voir qu'une page de l'histoire commence à être tournée avec énormément d'incertitudes, avec Kim Jong-un d'un côté et Donald Trump de l'autre, deux personnages improbables qui vont se rencontrer.